La dispute. Ce soir, la bande dessinée.
Cette émission est préparée par Aïssa Tondoy, Lucille Como, Boris Pinot et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Pierre Faucillon. Réalisation Thomas Beau. Autour de moi, ce soir, Catherine Robin, Antoine Guillot, Joseph Gosne pour parler ensemble de La Cantine de Minuit, volume 3 de Yaro Abe au Lézard Noir, Night Business de Benjamin Marat au Roquin Marteau et Courte Distance de Geoff Winterhart aux éditions Ça et Là. Boris Pinot est de retour et devant nous, et à côté de nous, devant ses écrans, pour donner à entendre les commentaires que vous pourriez déposer sur Facebook ou Twitter au sujet de notre sommaire. Et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour découvrir l'exposition sur grand écran Cézanne, portrait d'une vie, à partir du 10 avril au cinéma. Avec 7 millions d'exemplaires vendus au Japon, deux films et une série disponibles sur Netflix, La Cantine de Minuit de Yaro Abe est une œuvre culte au Japon et pas seulement. L'action se déroule, comme son titre l'indique, dans un restaurant ouvert toutes les nuits, de minuit à 7h du matin. Unité de lieu qui permet à l'auteur de faire se croiser tous les possibles de la nuit tokyoïte, avec toujours évidemment des aliments au centre de ses courts récits. Le Lézard Noir publie donc le troisième volume de l'édition française de La Cantine de Minuit dans une traduction de Miyako Slocombe. Entrons dans La Cantine de Minuit en suivant les pas de Catherine Robin.
Bon bah vous le disiez, c'est une saga culte au Japon, Arnaud. La Cantine de Minuit, là on a décidé de s'intéresser au troisième tome. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore ce lieu très particulier, c'est donc un restaurant qui fait un an, qui n'a pas de nom, tout comme son patron qui n'a pas de nom, mais un visage très très particulier, avec une cicatrice qui lui barre l'œil gauche. Je voudrais d'abord commencer par la couverture de cette série, parce que les couvertures du Lézard Noir sont toujours très bien façonnées. Et les trois couvertures des trois tomes sont très très jolies. En plus, notre sélection de ce soir est très noir et blanc, donc là il y a un peu de couleur sur la couverture. Et la première, c'est dans mon souvenir des personnages assis au comptoir de cette petite cantine de minuit qui nous regardent et qui nous invitent presque à s'asseoir à leur côté. Le deuxième, c'est une photo, un dessin du patron du bar dans un onsen, un bain japonais avec le mont Fuji, dans une image un peu typique du Japon. Et le troisième, c'est toujours ce patron en train de confectionner un onigiri, une sorte de pyramide comme ça de riz, bref. Ça met en appétit, ça donne envie d'y plonger. Et il ne faut pas se tromper, il ne faut pas qu'il y ait de malentendu. Ce n'est pas un bouquin de cuisine, ce n'est pas un livre sur les pérégrinations d'un gourmet esthète façon Jiro Taniguchi, qui avait fait le gourmet solitaire, qui avait aussi beaucoup marché en France et au Japon. Non, là, il s'agit presque d'ethnologie ou d'anthropologie culinaire, puisque l'idée est toute simple. Comment l'intrigue se déploie, c'est très simple, c'est-à-dire un chapitre, une nuit, un plat et des personnages qui sont liés à ce plat, pas de plusieurs manières différentes, mais en tout cas qui vont se dévoiler autour de ce plat qu'a choisi Yaro Abe.
Mais 10 planches pour un chapitre.
Absolument. J'avais pas compté d'ailleurs. Mais en fait, ce qui dévoile là, c'est combien la nourriture est au centre de toutes nos sociétés, en particulier au Japon. Et il nous amène à toutes les fonctions de la nourriture, le rapport à l'enfance, à la nostalgie, à la cuisine maternelle, à la sensualité de la cuisine, etc. Donc, il nous dit bien que manger, ce n'est pas seulement être le mammifère se nourrissant pour survivre, mais aussi plein d'autres choses qui nous ramènent à la condition, nous, d'être aimants, nécessitant des relations sociales, des interactions, puisque c'est aussi un lieu où se passent des rencontres. C'est ça aussi, sa dynamique à cet album. C'est-à-dire que chaque chapitre commence avec quelqu'un qui rentre dans ce restaurant et qui va interagir avec soit des clients qu'on connaît déjà, des habitués, soit des nouveaux. Et puis, il va rendre compte de coïncidences, de hasards. Et c'est très, très beau. Moi, j'aime beaucoup ces rencontres, ces récits de hasard et de coïncidences. Et enfin, il faut aussi souligner qu'il a choisi de situer sa cantine à Tokyo, dans le quartier de Shinjuku, qui est une grande gare de Tokyo, un lieu où il y a, voilà, et qu'il ouvre cette gargote de 0 à 7 heures du matin, d'où des gens qui passent qui sont quand même debout à entre 0 et 7 heures du matin. Et je trouve que dans l'anonymat de cette grande ville qui est la plus grande métropole du monde, Tokyo, il arrive justement à faire de ce petit restaurant d'angle de rue un lieu de profonde humanité où on peut s'attacher au destin des uns et des autres, et on n'est plus du tout dans l'anonymat de la société japonaise où l'individu est quand même franchement cadenassé, contrôlé, discipliné. Et là, on a affaire à des destins et des gens beaucoup plus chaleureux. D'ailleurs, vous faisiez allusion à l'adaptation Netflix de cette série que j'ai un tout petit peu regardée. J'ai juste regardé des extraits et je trouve que c'est beaucoup moins fort que les personnages de papier et que la chaleur qui émane des trois tomes dont on attend surtout le quatrième avec appétit.
Sachant que l'édition française, elle ne reprend pas les volumes japonais. Hein, ils en mettent plus dans l'édition française. Joseph Gosse, vous avez, je crois, fait un coup de cœur il y a quelques années sur le deuxième tome de La Cantine de Minuit. Donc, pas grand suspense. Quoique, est-ce que vous vous lassez de cette Cantine de Minuit, de fréquenter ?
Je ne m'en lasse absolument pas. Et en fait, plus je découvre ces récits-là, et plus le dispositif m'intéresse, le dispositif du récit, et même le dispositif à l'intérieur même du récit, qui est comme vous le disiez, cette unité de lieu, qui est même quasiment une unité de bar, de zinc, puisqu'ils sont tous autour dans ce restaurant, autour de ce bar finalement, et avec ce personnage de cuistot, de chef de restaurant, qui est là pour les servir. Sauf que le personnage en lui-même n'a quasiment aucun intérêt, à part celui de passer les plats, et que tout l'intérêt est de voir qui rentre et qui sort de ce restaurant, avec à chaque fois une histoire qui se crée. Ce qui me touche d'abord, c'est qu'effectivement tout tourne à chaque fois autour des plats. En tout cas, à chaque fois, évidemment, quand on là dans ce tome 3, quand on regarde le sommaire, chaque histoire correspond à un plat. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des plats qui, je crois, sont plutôt issus d'une culture très populaire, enfin, d'une gastronomie extrêmement populaire.
D'ailleurs, c'est souvent pointé dans les histoires. Hein, pourquoi aller manger ça au restaurant alors que c'est normalement ce qu'on fait chez soi.
C'est ce qu'on fait chez soi. Et d'ailleurs, les onigiri que l'on mentionnait tout à l'heure, il y a un chapitre sur les onigiri grillés, je crois. Le onigiri au Japon, c'est l'équivalent du sandwich. C'est-à-dire, il y a pas de pain, mais c'est un sandwich de riz. Donc, on fourre avec un ingrédient. Donc, ça, en soi, déjà, c'est intéressant de voir qui entre là, qui commande quoi. Et comment se créer une relation effectivement avec le plat, et ensuite comment l'histoire pousse vers autre chose, c'est-à-dire effectivement la vie de Tokyo la nuit, la vie d'une petite société comme ça, puisque les personnages sont finalement tous plus ou moins issus de même chose. Ce sont souvent des personnages de passage dans Tokyo. Il y a quelques personnages récurrents, mais finalement pas tant que ça. Et ce qui est assez fort, c'est que très très souvent les histoires tombent dans des récits assez crus de sexualité, de vie de nuit, parfois même un peu de violence, mais toujours avec cette espèce de recul et de distance et un peu de de distance qu'a ce personnage principal qui, comme je le disais, n'a pas forcément énormément d'intérêt, mais qui est là pour poser une espèce de calme central. Et je trouve que tout ça se lit vraiment très très bien, d'une histoire à l'autre. Il y a parfois, ce qui est assez étonnant, c'est qu'au bout de la lecture, on a l'impression qu'il y a des échos entre les histoires, c'est-à-dire que certains personnages reviennent, ou en tout cas on a cette impression de les voir ressurgir, et que finalement, en prenant un autre plat, c'est aussi une autre histoire qui se recrée. Et puis aussi, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le dessin, qui est assez minimal, qui va droit à l'essentiel, qui quand lorsqu'il s'agit de représenter les plats est plutôt très 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 bien dessiné. J'ai relu quelques histoires hier soir et j'ai eu très très envie de manger japonais, donc j'y suis allé ce midi. Et il y a quelque chose comme ça de l'appétit qui se forme en lisant ces histoires. Et au-delà effectivement de l'ethnographie tokyoïte, il y a vraiment quelque chose qui vous appelle et qui vous dit moi aussi j'aimerais bien être là pour comprendre ce qui se passe. Et puis aussi ça m'a beaucoup rappelé, j'ai été au Japon quelques fois, pas énormément, mais à chaque fois je me suis retrouvé dans un lieu comme celui-là. Il y a un lieu petit avec un patron et une atmosphère et une âme, comme si d'un coup ces gargotes-là finalement captaient quelque chose de la vie qui ne peut pas se développer ailleurs. Et ça je trouve est vraiment beau dans cette lecture-là.
Antoine Guillot, sur la cantine de minuit, on parle du volume 3 ce soir.
Ouais, c'est un lieu où il vaut mieux venir accompagner si on est étranger, comme on le voit d'ailleurs à plusieurs reprises dans le livre, parce que ce qu'on n'a peut-être pas précisé, c'est que c'est un restaurant où il y a un menu unique, qui est une soupe mise au porc, et après on peut demander ce qu'on veut. Mais alors, déjà, il faut savoir ce qu'on veut, c'est-à-dire que vous arrivez comme étranger, d'ailleurs c'est assez rigolo, parce que si c'est des occidentaux, il va leur servir des pâtes à la napolitaine, si ce sont des indiens, il va leur servir un plat au curry, donc chacun vient avec...
Et des bolognaises, notamment.
Voilà, chacun vient avec son désir, avec ses envies et avec son histoire. C'est vrai que moi, j'étais pas rentré tout de suite dedans parce que j'avais été assez refroidi par le gourmet solitaire de Taniguchi, que je trouvais très maniéré, très replié sur lui-même et pas du tout dans le partage. Le titre portait bien son nom, mais vraiment dans une recherche intime, quasi proustienne du souvenir. Là, ce qui est formidable, c'est que ces plats suscitent des histoires. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie ou pas de les manger, mais on est passionné par cette faune interlope qui est célébrée dedans. Moi, je trouve ça formidable, ces généalogies de stripteaseuses où on voit arriver une vieille dame qui se révèle être une grande légende du striptease qui a inspiré tout le monde, plusieurs générations de femmes qui reproduisent les mêmes névroses. Il y a toute une humanité vraiment souffrante, blessée, qui trouve là un havre de paix où ils peuvent raconter leurs histoires à ce moment-là. Et j'ai été très frappé aussi par cette différence de texture entre le dessin des plats extrêmement précis. D'ailleurs, il y a un gag au milieu puisqu'on est aussi dans le quartier des éditeurs de manga, où l'auteur lui-même arrive dedans et dit vraiment vous m'arrangez pas à commander encore des pâtes parce que ça me prend une heure à les dessiner une par une, je préfère des plats un peu plus simples. Et puis à côté, ce trait extrêmement gracile, très très simple, très schématique. Et je suis pas étonné, j'ai pas vu la série sur Netflix, mais je suis pas étonné que ça marche moins bien, parce que les personnages étant fatalement dans une représentation comme ça, habités par des corps, par des gens qui ont une histoire ou par des voix, il y a quelque chose de très beau sur les voix de dessin animé d'ailleurs. Au début, ça bloque complètement l'imaginaire. Nous, on est complètement avec ces personnages et on peut être à la fois un acteur de porno, une hôtesse de bar, un salaryman déprimé ou tous les personnages qui passent dedans. C'est très très fort. Ça utilise vraiment le principe du manga, qui est la projection du lecteur dans un dessin de personnage le moins détaillé possible, pour qu'on puisse vraiment être chacun de ces personnages. Et en plus, dans un secteur qui est très sectorisé, justement. Enfin, le manga, c'est vraiment, il y a des mangas qui racontent des histoires de basketteurs, des histoires pour les filles, des histoires pour les garçons, etc. Là, ça arrive à mélanger, en fait, tout ce genre de personnages. Il y a du polar, il y a du sexe, il y a des histoires de famille tout à fait quotidiennes, il y a des très souvent des histoires d'amour. D'ailleurs, les personnages se rencontrent là et ils reviennent des années après en présentant le bébé ou racontant l'histoire. Et ça rassemble tous ces genres de mangas différents. Donc c'est un livre très accueillant.
Moi, c'est le premier volume que je lisais de la cantine de minuit. Je comprends la réussite, enfin le succès, parce que c'est vraiment assez époustouflant la façon qu'il a de Yawabe de renouveler, parce que sur le principe, on l'a dit, extrêmement extrêmement simple, très minimal comme dispositif, et donc chaque fois en 10 planches. Parce que j'ai regardé, j'ai compté, Catherine,
parce que ça se lit en feuilleton.
Comment ça fonctionnait, mais enfin c'est la comédie humaine, parce qu'on a vraiment absolument tout, et c'est avec les classifications. sont explosés par cette science du récit, mais c'est à chaque fois, on rentre à chaque fois, et en très peu de cases, encore une fois, en très peu de planches, dans l'intimité des personnages qui donc franchissent le seuil à la première case, puisque ça part toujours comme ça, et on est vraiment attrapé. Alors on est heureux des fois de les retrouver ou pas, hein. Il y en a qui ne font que passer. Bon, moi je suis absolument, vous connaissez mon peu de goût, non, mes critères très exigeants pour, on va dire, pour les bandes dessinées ou les romans graphiques, et ça fait partie de ceux, ils sont rares, que je vais garder dans ma bibliothèque à la cantine de minuit. Puis je vais me procurer les deux premiers volumes parce que j'ai envie d'en savoir plus. Il y a vraiment en plus un effet quasiment addictif qui marche aussi avec la nourriture, c'est qu'on a envie d'une nouvelle histoire, C'est comme c'est assez épais comme volume, il faut du temps parce qu'on n'a pas envie de le lâcher. On va oublier de faire sa propre cuisine parce qu'on est plongé dans la cantine de minuit. Un petit commentaire, Boris Pinot, sur les réseaux sociaux.
Oui, un mot de Gritch sur Twitter. Chacun des chapitres de la cantine avec un dessin très simple et en quelques pages réussit à nous émouvoir et à nous donner irrésistiblement faim. Desin sur Twitter toujours parle d'une lecture pleine de fraîcheur et Armel LM tient à souligner la très grande qualité du travail éditorial du Lézard Noir pour le manga en France.
Ouais, voilà, ça on le salue, Catherine Robin, le Lézard Noir, en effet.
Absolument, ils avaient reçu l'année dernière à Angoulême le prix de la série pour Shizakobe. Et ils ont une programmation très exigeante et vraiment on les salue. Mais je voulais juste rajouter une dernière chose sur cette galerie de portraits qui passe dans cette cantine de minuit. Il y a aussi parmi tous les archétypes qu'on a cités, les hommes d'affaires, les yakuza, les vedettes de porno, les gens fatigués à avoir passé des heures dans les salles de pachinko, etc. Il y a aussi une vision des femmes qui est assez particulière, c'est-à-dire que bien souvent on a une vision très effacée, d'une femme japonaise très effacée dans la société japonaise qui n'a presque pas d'existence à partir du moment où elle fonde une famille et elle se replie sur justement l'univers domestique. Là, il ne présente quasiment que des femmes extrêmement fortes qui ont pris en main leur destin et qui vont un peu faire tourner en bourrique tous les hommes qui passent dans cette cantine. Et c'est aussi assez remarquable dans cette bande dessinée, je trouve.
Enfin, une des femmes aura du mal à tenir son régime.
Elle, c'est aussi mon petit coup de cœur.
Un régime quand on va tous les soirs ou toutes les nuits dans la cantine de minuit.
Je ne sais plus
quelle
est sa spécialité. C'est le porc. Je me souviens plus.
Moi, j'aime beaucoup le trio de copines qui recherchent chacune un mari et qui passent leur temps à se réjouir du malheur de leur autre copine qui, elles, ont trouvé un mari, mais il s'avère être épouvantable. Elles divorcent, etc. Donc, c'est formidable, la vie.
Et aussi, le transsexuel et sa jeunesse au club d'athlétisme, qui est aussi extrêmement touchant.
Il y en a des choses. Voilà. Hein. Joseph Gosne,
juste pour dire encore un mot. Je crois que ça rejoint ce qu'avait fait un grand mangaka qui s'appelle Tatsumi, Yoshihiro Tatsumi, avec ses à la fois des histoires courtes, très sensibles, très ancrées dans la société japonaise, et avec ce même sens de ne jamais donner de morale et de ne jamais dire ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, tout simplement d'écrire les personnages et effectivement de donner de la force aux personnages féminins ou pas lorsqu'il en faut. Je crois que ça s'inscrit dans cette tradition là.
Oui, vous avez raison de le souligner. Hein, ce sont pas des fables morales au sens on pourrait imaginer qu'à chaque fois il y a une leçon à tirer des épisodes.
Enfin, et même le plat ne règle rien. Alors que ça aurait pu être très facile de dire tiens, mange, ça va aller mieux, alors que pas du tout.
Ouais, c'est très behavioriste, Antoine Guillot.
Oui, tout à fait. Mais très psychologique en même temps.
Mais
il y a une finesse de portrait. C'est vraiment un portraitiste. Trois coups de pinceau ou de plume, là, je pense plutôt. Et hop, c'est réglé, quoi.
Bon, ben voilà. Adhésion totale pour La Cantine de minuit. C'est le volume 3 qui vient de paraître au Lézard Noir. Donc, ce volume de Yaro Abe, traduction française de Miyako Slocombe. À suivre. Dans la dispute, Benjamin Mara et Geoff Winterhart.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
On reste la nuit, on change d'ambiance avec un bien curieux personnage, Benjamin Mara, je parle de l'auteur, dont Les Requins Marteaux publient Night Business, une traduction de Jean-Baptiste Bernet. On va découvrir un serial killer de stripteaseuse qui sévit et Johnny, qui est agent de certaines de ses belles de nuit, qui mène l'enquête, mais il n'est pas le seul. Un extrait de la musique du film Sin City. Pourtant, Benjamin Mara nous confie sa playlist, hein, dans son immense bonté. on n'a pas pioché dedans, on n'a pas eu très envie avec Thomas Bou qui réalise cette émission. Je ne peux pas vous le cacher. Mais c'est Joseph Ghost qui va commencer à nous parler de ce night business et de sa présence au sommaire de cette émission.
Mais avec grand plaisir.
Je n'en doute pas.
N'est-ce pas? Mais je pense que je vais me sentir un peu seul tout à l'heure.
Allez savoir.
On ne sait pas. Benjamin Mara, c'est un auteur que j'ai découvert un peu au hasard en achetant des comics il y a quelques années. Des comics comme ça un peu de mauvaise facture sur du papier vraiment de très très mauvaise qualité. Il se trouve que c'était des volumes qui plus tard se transformaient en Night Business, c'était qui du coup étaient sortis comme ça en plusieurs épisodes. J'étais frappé tout de suite par le trait qui ne ressemble à rien d'autre, en tout cas aujourd'hui, qui par contre ressemble beaucoup à des choses qui se faisaient dans les années 80. J'étais frappé aussi par la grossièreté de l'histoire, la violence mise en scène de manière extrêmement explicite, et j'étais assez décontenancé par là où ça essayait d'aller, c'est-à-dire d'être dans une esthétique résolument moche, de plutôt mauvais goût, et qui ne cherche jamais à être dans de la morale, une fois encore, ou dans une esthétique un peu jolie ou un peu d'époque. Et j'ai aussi été très plutôt conquis par le fait que Mara s'empare de choses qu'on a pu lire dans les années 80 ou 90 dans le comics, qui commençait à tendre vers la violence, cette représentation-là, et elle est menée vraiment jusqu'au bout, c'est-à-dire elle est beaucoup plus loin que la plupart des auteurs qu'il a dû lire. Je pense notamment à un dessinateur qui s'appelle Paul Gulacsi, qui est un grand dessinateur des années 70 et 80, qui était comme ça dans un style extrêmement réaliste que Mara a tendance à reprendre. Et j'ai bien aimé ça, cette idée de pousser la chose. Et surtout, du coup, ça m'a rappelé à la fois des films de série B, série Z, des années 70 ou 80, qui poussaient elles-mêmes le bouchon très très loin. Ça m'a aussi rappelé les bandes dessinées de, vous savez, les petits formats de Gare des années 70, qui là encore, qui étaient souvent de facture italienne, qui avec des traits assez minimalistes, cherchaient toujours à représenter de la violence, de la sexualité, etc. Et du coup, je suis toujours assez, séduit par Mara, tout en me disant, tout en posant toujours des questions de qu'est-ce que ça me raconte exactement et pourquoi ça me plaît exactement. Est-ce que c'est un truc de petit garçon, de vieux garçon? Est-ce que c'est un truc d'ancien fan de comics devenu qui se dit tiens, il y a peut-être quelque chose d'un peu plus intellectualisé ou un peu plus distancié ou un peu plus ironique là-dedans qui me plaît. Ça m'interroge vraiment. Et en même temps, j'aime bien l'histoire. J'aime bien cette histoire-là. J'aime bien lire cette histoire. J'aime bien me laisser mener par le récit, par là où il essaye de m'emmener vers ce truc d'action qui est tout le temps dans une espèce de surenchère. J'aime bien aussi sa façon de représenter certains personnages. Il y a des scènes qui sont assez, je trouve, assez fortes, notamment la scène où il y a un des personnages fait l'amour avec cette femme casquée, avec le casque de moto. Les scènes de violence aussi, quand il y en a un qui se fait arracher un ongle comme ça, espèce de grande page. Ça fait vraiment mal.
C'est-à-dire il sait
vraiment toucher ça. Et ensuite, il sait aussi être vraiment dans la caricature, comme notamment avec ce personnage de pimp, de soutenir,
tout à fait,
de vieux soutenir, de vieux proxénète, qui finalement ressemble un peu à un vieux lecteur de bande dessinée qui n'aurait fait que ça dans sa vie, qui d'un coup, il y a quelque chose de cet ordre-là qui me fascine.
Saluons tous les vieux lecteurs de bande dessinée qui nous écoutent,
le premier,
nombreux, enfin, pas si vieux, Joseph. Ouais. Vos belles années sont derrière vous.
Non,
le meilleur commence.
Vous croyez?
Revoir Jean-Pierre Léo.
Je vais relire Benjamin Mara.
Dans le film dont j'oublie le titre, mais qui dit que la vie commence à 70 ans. Antoine Guillaume, vous allez m'aider à trouver le titre du magnifique film.
Non, parce que je réfléchissais à ce que disait Joseph Ghost.
Ouais, mais il ne faut pas trop réfléchir. Allez, dites-nous. Et pendant que ça me revient.
Je crois que c'est un peu la limite du système Mara, ce livre. C'est-à-dire, j'avais été très impressionné par son livre précédent qui s'appelait s'appelait OMWOT, One Man War on Terror, un homme seul se battant contre la terreur, qui déconstruisait beaucoup justement ce genre de bande dessinée ultra-violente, le nationalisme américain pensant qu'on peut faire régner la loi un peu partout dans le monde, parce qu'il y avait un décalage sans arrêt dans les dialogues notamment, où quand quelqu'un se faisait tirer dessus, il disait « Oh mon Dieu, je me vide de mon sang » et ce genre de choses. Le côté « je joue avec mes poupées d'action », c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que Big Jim défend les Barbies avec cette raideur qu'il y a en permanence dans le dessin, c'est-à-dire que les personnages sont à peine articulés, il n'y a aucune dynamique, c'est vraiment des positions de petites poupées. Marcher justement dans le précédent parce qu'il y avait cette déconstruction. Là, il y a un côté extrêmement répétitif dans les jeux et dans les obsessions de Benjamin Marat, parce que je pense qu'il est réellement obsédé de la représentation de la violence de ce dessin, qu'il se contrefiche à peu près absolument de ses lecteurs et de ce que ça peut produire sur eux, tant mieux si ça marche ou pas. Il limite lui-même volontairement son dessin, parce que c'est quelqu'un qui, on l'a vu, s'est très très bien dessiné, a suivi des études d'art assez poussées, allait étudier les maîtres les grands maîtres italiens directement à Florence. Et c'est comme si vous preniez un très grand musicien qui tout d'un coup se dit « je vais faire du punk et je vais me limiter à 3 accords ». Et c'est exactement ce qu'il fait.
C'est
donc
très punk,
lui le conceptualise dans un geste punk, mais qui est tellement, il me semble, d'une part conceptualisé, donc presque un objet marketing. Il dit, je vais retrouver l'esprit des Zap Comics, de Spain Rodriguez, vous citiez d'autres tout à l'heure. Mais on sent je sens la fabrication derrière, et c'est là que le système grippe. Alors, il y a aussi le fait que ce soit là encore un ouvrage qui rassemble des comics qui sont pas censés se consommer comme ça à la suite, et l'effet de répétition, ces filles toutes interchangeables qui sont juste encore une fois des poupées Barbie avec des mensurations un peu plus exagérées, dont on change juste la perruque de temps en temps pour essayer de caractériser les personnages, provoque un principe d'ennui qui, de temps en temps, effectivement, quand on voit un ongle arraché plein de pages, ou qu'il y a un dispositif ingénieux de faux, de mini-faux rétractables pour exécuter quelqu'un, tout d'un coup on se dit « Ah tiens, il se passe quelque chose, le personnage de la motarde casquée justicière dans la nuit, qui sort aussi des Anges de la Vengeance, de tout, parce qu'on parlait de la bande dessinée de l'époque, mais c'est aussi tout le cinéma de l'époque avec les héros bodybuildés.
» Je crois qu'il y avait une fille dans Daft Punk, mais
c'est plus Chuck Norris qu'on voit que Stallone et Schwarzenegger, parce qu'ils jouaient dans des films qui étaient où il y avait trop d'argent, donc là c'est vraiment le cheap du cheap, provoque un effet comme ça. Voilà, ça n'avance jamais, on est pris dans les obsessions de Benjamin Marat. Je comprends très bien, même si je ne partage pas les mêmes, qu'il ait besoin de coucher ça en permanence sur le papier, parce qu'il y a certainement une sorte d'exorcisme artistique comme ça à le faire. Est-ce que le lecteur s'y retrouve? J'en suis pas toujours sûr.
Et la lectrice, qui est Catherine Robin, est-ce qu'elle s'y retrouve?
Moi, je trouve qu'on est passé un petit...
Je ne finis pas par votre genre.
Non, mais je pense qu'on est passé un peu vite sur la playlist du début, que moi, j'ai écouté comme une bonne élève.
C'est vrai.
Parce que c'est pas vraiment des bandes dessinées que je lis, et je n'ai pas la culture de Joseph sur toute l'histoire du comics américain, qui fait que j'ai abordé cette album de façon un peu, sans trop d'a priori. Donc la playlist m'a mis dans une certaine ambiance. Hein, j'ai vraiment
une ambiance certaine
qui m'a rappelé mon enfance, quand mon frère écoutait à côté de moi un radiocassette avec ce genre de choses. Voilà.
On n'a pas eu le même frère, heureusement pour moi.
En fait, vous vous demandiez, Joseph, à qui c'était destiné. Moi, je pense que c'est une bande dessinée d'adolescents, qui aiment dessiner la violence, qui aiment dessiner les seins, qui aiment dessiner les muscles saillants. On dirait que les personnages n'ont pas de peau, ils ont été passés au décapant.
Vous n'avez pas compté, vraiment.
Je suis d'accord, Antoine, c'est vraiment Barbie et Ken dans la rigidité du dessin, quoi. La symétrie parfois aussi, d'ailleurs, il y a parfois des symétries, mais j'ai lu d'ailleurs quelque part qu'il avait rêvé au départ d'être illustrateur pour enfants. Je ne sais pas ce que ça aurait pu donner, mais...
Donc,
moi, ce perfectionnisme froid. En fait, je ne savais pas très bien à quel degré je pouvais lire ce livre. Ce noir et blanc très contrasté, avec des points de trame qui font le gris, mais ça donne vraiment une espèce de rigidité qui décontenance un peu, mais qui m'a pas dérangée. J'ai réussi à me plonger dans l'histoire. Après, on n'a pas du tout parlé du texte. Arnaud, je sais que quand on fait le jeudi ici même de la littérature plus classique et générale, il vous arrive de lire des extraits. Ouais. Vous auriez dû, là, peut-être.
Non, je vais prendre l'exemple.
Alors, prenez la page 9. Prenez la page 9, par exemple.
Est-ce qu'il faut que je mette mes lunettes? Non, je vais y arriver quand même. La 9, c'est laquelle? Déjà, j'arrive pas à lire le numéro de la page, c'est mal barré.
Alors, la 9? La 9 n'est pas indiquée, donc c'est la page après la...
Après les Boogie Nights?
Voilà. Justement, ce Bloody Nights.
Ah, Bloody Nights. Tandis qu'elle se vide de son sang et que la mort caresse de ses griffes glacées cette peau que tant d'hommes ont admirée et rêvé de toucher, Jay-Z comprend que les regards lubriques d'inconnus aux désirs étouffés et les drogues que lui offraient quelques rares éclats de bien-être, tout ça, ce n'était que du vent.
Voilà. Bon,
ça va comme ça ou pas?
C'est parfait.
Bloody Night, c'est marqué en dessous, écrit et dessiné par Benjamin Mara, au cas où on l'aurait oublié.
Voilà. Donc, une espèce de souffle un peu exalté, un peu ridiculeusement lyrique.
Et c'est quel degré?
Où on est? L'album commence avec une photo de l'auteur et se termine avec un photomontage de l'auteur en string.
Pourquoi photomontage?
Parce qu'ils sont trois. Vous
croyez que pas son corps?
Ah oui.
Ah oui.
Je pensais qu'il
avait mis sa tête sur un corps. Grosses lunettes dont je ne donnerai pas la marque, d'aviateur.
Voilà,
un blouson de cuir des années 80 et il est en string.
Absolument.
Voilà,
donc on est entre fluide glacial et les comics classiques, non? Enfin, pour moi, c'est un peu ça.
Non, mais quand j'ai vu effectivement ce photomontage, car vous avez raison, il ne peut pas être trois fois sur le même cliché, donc c'était un montage. Moi, ça m'a plutôt donné envie. Je trouvais ça très, très, très drôle. Et alors, j'étais beaucoup moins consciencieux que vous parce que je n'ai pas vraiment lu tout à fait en entier. Pardon, Joseph Gauss, mais ça m'a épuisé. Non, mais attendez, j'ai 5 émissions par semaine, je ne veux pas non plus.
Mais c'est fait pour ça, c'est fait pour vous épuiser.
Ah, ben ça m'a totalement épuisé. Mais c'est vrai que j'essayais. Bon, j'ai quand même très largement parcouru et plus que ça. Mais je ne savais pas non plus à quel degré prendre ce récit. Mais alors que ça tombe bien, puisque je vois sur l'écran de Boris Pinot qu'il y a un quatrième critique ce soir qui est en ligne sur Twitter et qui a un commentaire aussi. À nouveau le Grinch de tout à l'heure.
À nouveau Grinch sur Twitter qui vous cite Antoine. Je joue avec mes poupées Ken et Barbie. C'est tout à fait ça. Un graphisme très rétro pour amateurs de BD underground et de série Z à base de motos, de masques en latex et de bagarres au couteau.
Voilà, on sait maintenant définir Joseph Gosn.
Merci.
Un adolescent qui aime les bagarres au couteau.
Ou les mitraillettes font Bouddha Bouddha en onomatopée. Je ne sais pas si vous avez remarqué les mitraillettes faisaient Bouddha Bouddha.
Mais ça, pour le coup, ce genre de détail qui me plaît.
Mais voilà, il y a aussi ça dans...
Mais le mélange est tel qu'on a du mal quand même à démêler
C'est vrai que j'ai beaucoup lu de comics, et notamment des comics des années 80, et qui sont vraiment dans
pour le coup.
Oui, adolescent, oui, tout à fait.
Et, quand j'étais abonné à Strange.
Et on a l'impression, oui, on a vraiment l'impression qu'il reprend ça, et qu'il essaye d'en faire quelque chose, d'à la fois, complètement littéral, premier degré, mais d'ajouter parfois des choses, donc effectivement, au bout du compte, même pas au bout du compte, bien avant, c'est épuisant. Mais c'est une forme d'épuisement que j'aime bien parce que moi j'ai l'impression qu'il épuise aussi cette forme-là, c'est-à-dire qu'il essaye d'aller au bout de cette violence, de cette représentation-là.
Non, mais je comprends bien votre propos et le principe.
Et juste pour, je crois qu'en fait ces bandes dessinées-là datent d'avant. C'est date d'avant OM
quelque chose
OMWO
OMWOT.
Non, il y a pas de copyright, il y a rien.
Ah bon,
c'est les requins Marco.
Oui, c'est étonnant,
joue l'opacité.
Oui. C'est d'ailleurs étonnant que ce soit
c'est sorti ça a été édité en volume aux États-Unis chez Fantagraphics il y a quelques mois et les requins Marteau viennent de le sortir.
D'accord. Bon, il y a quand même il y a le traducteur.
Ça dit peut-être aussi le fait que ce soit chez requins Marteau a pas tellement l'habitude de sortir des
Oui, ça m'a étonné aussi. Enfin, moi
c'est pas une forme, à une forme de bande dessinée qui est très décalé. Vite proche de décalé un peu, bah, un peu dans
peut,
la caricature.
Ça peut inciter au second, à la lecture second degré, le fait que ce soit au Roquin Marteau, mais sauf que c'est moins drôle que quand Ciseaux, par exemple, vante les huiles Mérol en disant c'est formidable de polluer. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Vous avez passé tout à l'heure la musique de Sin City, on ne peut pas s'empêcher de penser au Sin City de Frank Miller, et notamment sur l'utilisation des voix off qui sont extraordinairement écrites chez Miller. Il y a un talent d'écrivain qui nous plonge dedans, et bon, sans parler du dessin qui est d'une flamboyance totale, mais ça reprend le même type d'univers, avec, alors sans doute que Frank Miller était plus tourné vers le public. Moi, je suis prêt à prendre vraiment l'exercice solipsiste du gars dont le trip c'est de dessiner ce genre de choses en permanente. Mais encore une fois, voilà, il rencontre ou pas son lecteur, il retrouve les obsessions des vieux ados qui jouent avec Ken et Barbie.
C'est presque le contre-pied de Miller, qui avait mené la chose vers un sérieux et une forme très très forte. Lui, on a l'impression qu'il essaye de se dégager de ça, justement, et d'être vraiment dans une écriture très très fluide, effectivement très presque cathartique pour lui déjà.
Alors, si j'en crois sa page Wikipédia est quand même une... quand même. Ouais. Quand même par rapport à la plupart des autres choses, Night Business, ce serait son premier.
Oui.
Son premier volume. Oui. Non, mais ça explique beaucoup de choses. 2008, donc pour son édition originale, Terror Assault, OMWOT, c'est 6-7 ans plus tard.
Hein. Bah alors, ça explique beaucoup de choses.
Donc si c'est son premier.
Voilà, là ça devient intéressant.
Ça devient intéressant. Sinon, on en croit Wikipédia. J'essaye de me connecter au site de Benjamin Marat, mais il ne marche pas très bien. Donc, je vais sur son blog.
Il vous a bloqué, il nous écoute.
Ah, c'est ça. Je comprends alors. Oui, alors je suis en train de rechercher. Non, vous avez d'autres choses à dire sur Benjamin Marat pendant que je cherche ou pas du tout?
Non, mais c'est vrai que ça a dû sortir en comics. C'est-à-dire qu'effectivement, la lecture se faisait comme ça au coup par coup. Je crois qu'il les éditait lui-même. Et c'est vrai que le papier était vraiment un papier journal tout pour. Donc ça allait bien aussi avec le récit. L'édition Fantagraphics, qui est sortie il y a quelques mois, est un peu plus grande que celle-ci. Elle est sur un papier glacé qui rend encore davantage le côté années 80, un peu comme ça, un peu reluisant. Et celle-ci, j'ai l'impression que les Roquin Marteau ont essayé de faire quelque chose d'un peu plus proche du petit format des années 70 ou 80 à la française.
D'accord, il y a plein d'éditions en tout cas de ce Night Business.
Oui, mais c'est un auteur qui est aujourd'hui très 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 lu, très suivi.
Bon,
moi, je le suis sur Instagram, vous devriez.
D'accord, je vais faire ça dès la fin de cette émission. Suivre Benjamin Benjamin Mara, puisqu'il est américain ce garçon, sur Instagram donc. Hein. Bien, Night Business au Roquin Marteau, dans une traduction, c'est quand même indiqué, de Jean-Baptiste Bernet.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Le troisième sujet de cette dispute bande dessinée, c'est Courte Distance, au pluriel, de Geoff Winterhart, élu meilleur roman graphique de l'année par The Guardian, publié en France aux éditions Ça et Là, dans une traduction de Martin Richer. Comme dans l'excellente série française Irresponsable, le point de départ du récit, mais c'est à peu près le seul point commun, c'est le retour chez sa mère d'un homme plus très jeune, Sam, 27 ans, qui sort d'une dépression. Sa mère essaye de lui trouver un boulot, et en l'occurrence, ce boulot consiste apparemment à accompagner Keith Nutt dans sa voiture pour sillonner leur petite ville. Keith, lui, s'arrêtant régulièrement, laissant Sam d'abord seul dans la voiture. Keith, il a plutôt une petite soixantaine. Et puis, on va voir que ces deux solitudes dans cet habitacle, de cela va naître une relation dont on va parler dans quelques instants.
As you love.
C'est bien sûr au tour d'Antoine Guillot d'ouvrir la dispute concernant cette fois courte distance de Geoff Winterhart.
Alors c'est un peu l'exact contraire de Night Business.
Ah, beaucoup d'action quand même. Hein.
C'est-à-dire
beaucoup de poursuites en voiture.
Oui, c'est trépidant. Non, effectivement, il ne se passe pas grand-chose dans ce livre, ce que je trouve déjà tout à fait passionnant, parce que c'est un livre qui prend le temps de détailler ses personnages, et notamment les textures. Moi, j'étais très, très frappé par la passion qu'on peut avoir pour des poils dans des narines, pour des vieux panneaux écaillés, pour
Faudrait isoler cette phrase, hein. J'espère qu'elle sera
là. C'est très beau, la fascination qu'il a pour cet homme extrêmement poilu et extrêmement texturé, il le dit à un moment. D'ailleurs, la relation,
c'est beau, cette passion qu'il a.
La relation entre ces deux personnages est tout à fait ambiguë. On ne sait pas trop pourquoi cet homme un peu âgé, cet homme mûr, a pris sous son aile ce jeune garçon, ce grand échalas. D'ailleurs, déjà, graphiquement, c'est le grand échalas et le petit homme replé, ils font comme un 10 quand on les met l'un à côté de l'autre et on ne sait pas trop ce qu'il lui veut. Il y a des moments assez ambigus dans cet habitacle d'Audi 4, voiture allemande qui, et c'est important dans l'histoire, a le volant à gauche, alors qu'en Angleterre c'est plutôt le contraire. Donc le jeune garçon va mettre beaucoup de temps à s'y faire. Il y a un talent, je trouve, chez ce dessinateur. Je connais, j'avais pas lu son précédent qui était sorti aussi chez Sci-Fi, L'été des bagnoles, mais ça donne très envie de le voir, un talent d'observation de typologie, par exemple, de typologie des gens de cette petite ville. On ne sait pas trop où c'est en Angleterre et ce n'est pas très important, mais par exemple, typologie de ce qu'on trouve dans des halls d'attente de ces petites entreprises de zone commerciale, les photos de galets, les dossiers rangés toujours, ou aussi typologie des hommes mûrs. C'est quelqu'un qui va se rendre compte, parce qu'il passe son temps dans une voiture avec un homme mûr, que sa ville est pleine d'hommes mûrs qui sont le postier, le facteur, plein de gens dont on ne sait pas trop ce qu'ils font. D'ailleurs, on ne sait jamais quelle est la profession réelle de ce personnage, parce qu'on est comme on reste dans la voiture ou dans les halls d'attente en permanence, donc il est question de filtre.
Il fait signer des papiers.
Il fait signer des papiers, il connaît tout le monde dans une sorte de Rotary Club local qui se réunit deux fois par mois à la rôtisserie.
Oui, à la rôtisserie, oui.
Et avec un personnage qui essaie de se donner beaucoup d'importance, c'est-à-dire qu'il veut se poser comme un père, il a quelque chose à transmettre, et ce qu'il a à transmettre, c'est ses propres expériences, et d'un homme qui a beaucoup compté pour lui, et qui lui disait toujours à quel point il était formidable. Alors tout ça est très triste et très beau en même temps, le tout dessiné uniquement au pinceau, avec une aquarelle qui est bleu sombre, et parfois il y a du marron qui arrive. On comprend pourquoi...
Événement.
Au bout du compte. Mais oui, mais il se passe énormément de choses de manière très subtile et très, très passionnante, le tout dans un livre au format carré, ce qui n'est pas aussi très, très souvent. Je crois que je n'avais jamais lu une bande dessinée comme ça. C'est vraiment quelque chose de nouveau, de cette tentative de raconter un rien où finalement il se passe énormément de choses. J'ai été très, très touché par ce trait en plus un peu tremblant, un peu fantomatique, comme ça, très, très évanescent. Et finalement, il s'est passé quelque chose pendant ce livre. C'est épatant.
C'est passé quelque chose, Catherine?
Oui, absolument.
Robin,
je suis tout à fait d'accord avec Antoine. Voilà, c'est vrai que ce sont deux solitudes qui se rencontrent, deux physiques, comme vous l'avez dit, Antoine. Je trouve que le jeune Sam ressemble un peu, enfin, un physique tombant comme ça, comme avec un grand cou, il ressemble un peu à une vieille dame. Une vieille dame un peu Theresa May, un peu, je trouve.
C'est pas faux.
Quand,
c'est une BD extrêmement politique, en fait.
Alice ressemble davantage, je trouve, à Claude Lanzmann, un petit air de Claude Lanzmann.
Mais c'est vrai,
hein, c'est pas faux.
Je l'ai sous les yeux, là.
Donc, pour les auditeurs sachent à
d'accord,
peu près à quoi.
C'est une histoire quoi. Entre Claude Lanzmann et Theresa May. On connaît les aventures de Claude Lanzmann, on connaissait pas ce nouveau chapitre.
Mais en fait, cet album, c'est surtout un album sur la dépression larvée. Ce jeune homme, comme vous le disiez, sort d'une dépression. Il va trouver un petit job aux côtés de ce Kiss qui, lui, a une vie qui s'en rapproche de la dépression par sa monotonie, le côté répétitif, tous les jours aller faire les mêmes transports d'objets, d'enveloppes dans ces espèces de PME, ces entrepôts, à manger des friands, à la viande, chaque jour auprès de dans ce snack tenu par une femme extrêmement vulgaire, etc. Et je trouve ça très bien parce que justement, on n'est pas dans le registre du journal intime de ma dépression comme on en a beaucoup lu ces dernières années en bande dessinée, parfois de très très bons, de très très bons albums. Mais là, justement, on n'est pas dans la description d'état d'âme des personnages, mais juste dans cette routine à laquelle s'accrochent bien souvent les gens qui sont en dépression et qui sont en train de tomber au fond du trou, et que la routine rassure et qui les accroche à la vie. Quand on décrit tout cela, en effet, ça paraît un petit peu ennuyeux comme ça. Mais en fait, non, parce que le rythme est très juste et il joue beaucoup avec justement ces détails dont vous parliez aussi, Antoine. C'est focus sur les mains, sur les narines, en effet. Ça crée, je dirais pas du suspense, je n'irai pas jusque là, mais ça crée une dramaturgie petite, qui nous accroche. Et je trouve aussi la BD intéressante dans ce qu'elle décrit de contexte social. Vous parliez d'une petite ville, en effet, on ne sait pas très bien où on est, mais une petite ville avec un snack, avec ses réunions de rôtisseurs où on trouve des garagistes, des vendeurs de gravier, des camionneurs, des ferrailleurs, toute une galerie de portraits d'anti-héros, au premier rang desquels les deux héros principaux, les deux personnages principaux. Et ce sont des gens sur lesquels, dans notre vie quotidienne, on n'a pas forcément l'habitude de s'arrêter. On ne connaît pas forcément la vie de notre vieil oncle ennuyeux qui raconte des détails extrêmement technique sur son travail, et il rend tout cela très intéressant. Et je suis aussi d'accord, et je trouve aussi que à travers les détails que vous décriviez, quand apparaît le marron par exemple sur le panneau en ferraille, ou sur quand il y a ces pages de décor, il y en a très peu, hein, il est vraiment focalisé sur ces personnages. Il y a quelques pages de décor, notamment les halls d'entrée des entreprises là que vous décriviez, et ben là je trouve que c'est vraiment on sent vraiment le regard du dessinateur. En fait, c'est lui qui parle quand il parle de ce panneau qui est un peu vintage, qui est en train d'être abîmé et tout ça, et puis qui va être remplacé par un panneau tout neuf. Très abîmé. Bon, bah, Sam, le jeune, le trouve très beau et il est très déçu qu'il soit remplacé par un panneau tout neuf sans état d'âme. Keith, bien évidemment, pense le contraire vu de sa génération. Mais je trouve que ça dit beaucoup de choses de leur incompréhension mutuelle, mais aussi de ce qui les réunit, à savoir une espèce d'inadéquation au monde dans lequel ils vivent, l'un comme l'autre.
On sent votre passion.
Ah,
hein.
J'ai adoré ce court distance, ça grand livre.
C'est très communicatif. Joseph Gosn.
Alors,
va tempérer un peu cet enthousiasme.
Peut-être tempérer un tout petit peu.
Je sais décrypter maintenant. Hein.
Ouf.
Alors.
Non, comment dire. Je m'ennuie beaucoup en lisant ce livre. Enfin, je veux dire, je commence par m'ennuyer pendant pas mal de temps quand même, pendant plusieurs pages. Mais je me dis, tiens, ça a quand même l'air de il faut tenir, contrairement à vous et Benjamin Barra. Parce que justement, je me dis, tiens, il y a pas grand chose, il y a rien, et c'est en train d'essayer de capter ça, comme le disait Antoine. Et c'est vrai que c'est plutôt passionnant, cette idée de capter le rien en bande dessinée, le rien, en tout cas l'espèce d'invisibilité, de choses qui ne se passent pas. Et puis, à un moment, je me dis, tiens, c'est bizarre, parce que j'ai l'impression qu'en fait, ces deux personnages sont exactement les mêmes, en fait. Mmh. C'est le même personnage, qui se regarde vieux, en fait. Et à partir de là, effectivement, on se dit, tiens, ça réussit à capter des petits détails de la vie, des petits détails finalement assez insignifiants, mais qui, je pense, se traversent un peu comme ça à l'inconscient, où on regarde quelqu'un de plus vieux que soi, on se dit, tiens, est-ce que je vais devenir comme ça? Est-ce que je vais avoir du poil dans les oreilles, du poil au nez? Est-ce que mes mains vont être aussi grosses que ça? Est-ce que mon corps va s'affaisser comme celui-là? Est-ce que je vais être capable de mener une vie qui va elle-même me conduire vers cet état finalement de délabrement, alors que je suis encore un jeune homme? Donc ça, de ce point de vue-là, c'est assez fort. Et quand on rentre dans cette perspective-là, ça marche très très bien. Et ça marche d'autant mieux que il n'y a rien autour, en fait. Il n'y a absolument rien. Et effectivement, il n'y a pas vraiment de décor. Ce boulot-là, on ne sait pas ce que c'est, en fait. On ne sait pas vraiment ce qu'ils vont faire, ce qu'ils font. Et on ne sait pas du tout où c'est ce que tout cela va mener. Et ça devient assez. Assez joli, ou en tout cas assez, comment dire, équilibriste peut-être, lorsque on commence à rentrer plutôt dans la psyché du vieux personnage, et qu'on commence à comprendre que lui-même est en train d'élaborer des schémas qui sont totalement irréalistes, notamment des schémas amoureux par rapport à la mère du petit, à la mère du jeune homme, etc. Et que finalement on se dit, ben oui, tout ça c'est un tissu d'illusion. À partir de ce moment-là, oui, ça m'intéresse davantage. Je ne suis pas très 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 friand du dessin. Personnellement, ça me laisse un peu de marbre quand même. Même l'utilisation du bleu et puis tout à coup de la couleur, etc. C'est joli, mais j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quand même pas mal de fois. C'est bien fait, mais voilà, je serais, c'est une bonne lecture, mais je serais moins enthousiaste que mes camarades.
Comme annoncé au début de votre intervention, à votre première syllabe.
Je vais me taire.
Mais c'était très très bien exprimé, d'autant que je suis pas loin de partager votre avis, Joseph Gauss. Je trouve que la lecture est en effet assez fastidieuse, mais alors c'est le principe même, et pour moi quand même sa limite, de cet album, Courte Distance. On a quand même envie de faire différentes hypothèses, y compris que, voilà, pourquoi ne serait-il pas l'amant caché? Pourquoi est-ce que ce serait pas un voyage temporel? Pourquoi est-ce que, enfin, on peut vraiment ou le père caché, se raconter quand même beaucoup, beaucoup d'histoires. Il y a d'ailleurs des vieilles photos aussi qui donnent peut-être des pistes par moment. Mais je pensais, alors, pour réjouir ma lecture, que ça pourrait faire la troisième Palme d'Or de Ken Loach, s'il l'adapte, hein. Antoine Guillaume, vous en seriez tellement heureux.
Il y a pas de saint dedans, il y a pas de saint prolétaire, c'est plutôt du Mike Lee. Moi, je trouve qu'on est assez proche de.
Moi, j'aime Mike Lee, mais c'était pour vous titiller.
Non, mais on est justement beaucoup plus proche d'un Mike Lee sur cette description de milieu sans l'enjoliver du tout, et en nous faisant toucher à l'humanité de personnages, y compris par des moments doucement et tristement burlesques, comme quand le personnage de Keith lui dit, tu trouves pas que je ressemble à quelqu'un, tout le monde me le dit, et qui va mimer le geste de James Bond pour dire bah, je suis quand même le portrait craché de Sean Connery, mais moi j'ai encore mes cheveux.
C'est-à-dire qu'on répond pas Claude Lanzmann, bizarrement. On comprend pas pourquoi.
Il connaît pas encore, mais il va bientôt connaître. Et donc on a ces personnages qui sont effectivement, ils cachent une dépression, tout ça, mais qui essayent en étant un peu de forfanterie comme ça, de se hisser un peu pour rester au-dessus de la mare où ils se noient. Moi je trouve ça très très finement observé, quoi, très très troublant, d'autant que les personnages évoluent au fur et à mesure. On n'a pas dit que ce Sam est quelqu'un qui a fait des études d'art au départ, qui va peut-être enfin trouver sa voie par l'observation des poils sur son voisin.
Ça repart sur les poils. Avant le dernier mot de Catherine Robin, un commentaire, Maurice Pinot.
Oui, un mot de boum papoum sur Twitter. 4 en fait, singulier, intelligent, fin, drôle. L'anglais Geoff Winterhart réussit une seconde fois un excellent livre.
Bon, ce qui veut dire que le premier devait l'être aussi. Antoine Guillaume va se rattraper. Le dernier mot pour Catherine Robin.
Non, juste, Joseph parlait. Moi, je trouve qu'on n'a pas du tout accès, quasiment pas, à l'intériorité de ce personnage de Keith. On est vraiment que dans la subjectivité de Sam. Mm-hmm. Et ce qui fait que c'est très difficile de savoir ce qu'il est à l'intérieur. On n'a jamais accès à sa vie intérieure, à lui. Et la deuxième remarque, et après je m'arrête, mais c'est juste que c'est aussi un auteur anglais et que la bande dessinée anglaise traverse très peu la Manche. Enfin, on a très peu, à part Posy Simon, qui est peut-être la plus connue des auteurs. Voilà, et donc c'était d'autant plus une très bonne surprise que ce livre. Que vraiment, je vous encourage à relire, parce qu'à la deuxième lecture, il y a quelque chose qui se passe.
Bon, relisez Night Business d'abord. Courte Distance de Geoff Winterhart, aux éditions Ça et Là, dans une traduction de Martin Richet. Et avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec Camille André, qui passait d'un côté de la vitre où elle live tweet à l'autre côté de la vitre où elle nous livre chaque soir questions et réponses. Ça, c'est pour la veille et questions du jour. La question et la réponse d'hier, Camille.
Lors de quel film les deux acteurs principaux de Mobile Home se sont-ils déjà donné la réplique? Et il s'agit du film Green Room.
Ce soir, à gagner des invitations pour découvrir l'exposition sur grand écran Cézanne, un portrait d'une vie, c'est à partir du 10 avril au cinéma. Quelle est la question?
Quel livre d'Émile Zola, portrait d'un peintre maudit, signera-t-il le terme de l'amitié entre l'auteur et le peintre?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain. Vos commentaires, vous pouvez les poster sur la page Facebook La Dispute FC ou également en suivant le compte Twitter Dispute FC. Demain, 19h, dispute consacrée au cinéma. Nous serons, comme tous les vendredis, en public au Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, avec Lucille Como, Florence Colombani et Thierry Chaise. À notre affiche, des petits films d'auteurs, Ready Player One de Steven Spielberg et Red Sparrow de Francis Lawrence, et un blockbuster, Madame Hyde de Serge Bozon.